La CPTS des Bauges, la boussole qui guide votre santé vers de nouveaux sommets.
Une abeille un jour de printemps voletait gaiement sur la rose bruyère en fleurs dans si doux.
Chaque année, la saison estivale dans le massif des Bauges attire de nombreux promeneurs, vacanciers et habitants désireux de profiter de la nature. Mais pourtant, certaines rencontres naturelles peuvent entraîner des désagréments ou des complications médicales. Piqûres d'insectes, morsures de tiques, morsures de vipères. Nous vous proposons de détailler les risques, les gestes de prévention, les signes d'alerte et les conduites à tenir. Et comme à chaque fois qu'on parle de complications médicales ou d'interactions avec votre santé, nous recevons la CPTS des Bauges, la communauté professionnelle territoriale de santé du Massif des Bauges. Et je suis avec Maude Duchesne, infirmière libérale. Bonjour Maude.
Bonjour.
Avec Catherine Gou, infirmière libérale. Bonjour Catherine.
Bonjour.
Et avec Edmond Guillot, coordinateur de la CPTS.
Bonjour.
Alors, quelles sont donc ces dangereuses créatures que nous allons croiser et qui peuvent nous affecter médicalement,
Maude ? Oui, alors dans la nature, il y a plein d'insectes qui butinent et qui sont tout autour de nous. Mais aujourd'hui, on va parler plus précisément des guêpes, des abeilles, des frelons et des bourdons dans un premier temps. Donc, chacun a son rôle dans nos jardins et ces insectes peuvent facilement être confondus. Donc pourtant, ils ont tous un caractère qui est plutôt différent et aussi un comportement qui est différent. Donc on va commencer par ça. Donc l'abeille, elle est plutôt douce, un peu précieuse, tu vois. Puis elle est poilue, elle est discrète, elle butine sur les fleurs. Et puis bon, bah, comme on le sait, elle produit du miel si précieux pour notre santé. Donc elle ne pique que si elle se sent en danger, puis elle meurt après nous avoir piqué. La guêpe, quant à elle, elle est plutôt nerveuse, hein, ça se sent dans sa façon de voler quand on l'observe. Elle est fine, elle est jaune et elle est noire et elle aime beaucoup les fruits, la viande et surtout nos pique-niques. On peut tous être vite dérangés par les guêpes. Donc elle peut piquer plusieurs fois par contre si elle se sent encore une fois agressée. Elle ne viendra pas directement vous piquer. Le bourdon, quant à lui, il est plus gros, donc c'est une grosse abeille qui est plutôt ronde et velue. Il est très pacifique, hein, le bourdon, et puis il butine assez bruyamment, donc en général, quand il s'approche de nous, on a tendance à l'entendre assez vite. Et il est plutôt là au printemps, et puis lui, bah, il ne s'intéresse quand même vraiment pas à l'humain. Et puis, il y a le frelon, donc lui, il est beaucoup plus impressionnant parce qu'il est très gros. Donc le frelon européen, il est plutôt discret, mais on a de plus en plus la présence donc, du frelon asiatique qui, lui, est plus sombre et puis qui peut défendre son nid. Et puis, de façon collective, il va chercher des copains, quoi. Donc tous ces insectes, ils jouent un rôle dans l'équilibre de la biodiversité. Ils font partie de la famille des hyménoptères, donc qui peuvent piquer, donc, comme je l'ai dit, en cas de défense. Et cette piqûre, en fait, elle va injecter un venin dans le corps et qui va être responsable donc, de plusieurs réactions. En premier lieu, bien, la douleur, hein, c'est la première chose que l'on va sentir. Donc une douleur d'abord locale qui va ensuite faire apparaître une rougeur et puis à ce qu'on appelle un œdème, donc un gonflement. Donc chez la plupart des individus, cette réaction, elle va rester plutôt localisée, mais faire très attention, surtout en cas de piqûre multiple, donc plus de 20 chez l'adulte à peu près, et puis 5 chez l'enfant. Une toxicité quand même générale peut apparaître avec donc des maux de tête, nausées, vomissements, une chute de la tension et parfois même qui peut aller jusqu'au malaise. Après, il y a aussi un grand point de vigilance, c'est chez les personnes allergiques. Donc une seule piqûre peut déclencher une réaction, ce qu'on appelle anaphylactique, qui peut être très très grave et voire fatale. Donc c'est vraiment pas à prendre à la légère, hein, bien que ce sont des petits insectes qui soient très mignons. Les signes donc, d'une réaction anaphylactique vont être un œdème de la face ou du cou, donc un gonflement, un urticaire généralisé, donc une apparition de petites plaques rouges, de petits points rouges au niveau de la peau, une gêne respiratoire. Il peut aussi y avoir une sensation d'oppression thoracique avec des vertiges, et puis ce qui peut aller aussi jusqu'à un évanouissement, une perte de connaissance. Donc c'est vraiment une situation qui constitue clairement une urgence vitale et qu'il faut vraiment prendre en compte.
Ok, donc on a commencé au début avec un champ de pâquerettes et deux, trois trucs qui bourdonnaient dedans. Et là, on se retrouve avec quelqu'un qui vient de s'évanouir. Edmond, qu'est-ce que je fais si j'assiste à ça?
Alors, la conduite à tenir. Premier cas, le cas d'une réaction allergique sévère. Alors là, quatre points importants. D'abord, appeler immédiatement les secours, le 15 ou le 112. Ça, c'est le préalable. Ensuite, administrer un stylo auto-injecteur d'adrénaline si la personne en possède un. Autre point, allonger la personne, jambes surélevées, sauf en cas de gêne respiratoire. Et enfin, détendre les vêtements pour rassurer la personne et surveiller la respiration jusqu'à l'arrivée des secours.
Donc ça, c'est si vraiment on constate que la personne, ça va pas du tout. Si il s'avère que la piqûre est unique et sans signe de gravité.
Alors, conduite à tenir, en cas de piqûre sans signe de gravité, petite précision, les guêpes, les frelons et les bourdons ne laissent pas leur dard, car elles peuvent piquer plusieurs fois, leur dard étant lisse et ne restant pas dans la piqûre. A contrario, les abeilles laissent leur dard planté dans la peau après la piqûre, car le dard est muni de crochets qui l'empêchent de ressortir. Après la piqûre, l'abeille meurt naturellement, puisque finalement elle a perdu une partie de son dard. Seules les abeilles laissent leur dard planté, car elles y laissent une partie de leur abdomen. Enfin, important, une fois retiré, le dard ne peut pas réinjecter le venin. Donc plus on agit vite, moins le venin est injecté. Alors comment retirer un dard en toute sécurité? Premier conseil, ne pas utiliser de pince à épiler ni de doigts. Cela comprimerait la glande à venin, encore attachée au dard, et injecterait davantage de venin. Ensuite, utiliser un objet rigide à bord non tranchant, comme une carte bancaire par exemple, une carte plastique de toute nature, en grattant horizontalement à ras de la peau dans le sens opposé de la pénétration pour faire sortir le dard.
Ok, donc ça c'est comment on a fait pour enlever le dard et réagir, que ce soit en cas de réaction allergique sévère ou s'il s'agit d'une piqûre bénigne. Catherine, une fois qu'on est confronté à cette piqûre, quels sont les gestes à observer une fois que le dard est retiré?
Donc c'est des recommandations pour l'ensemble de toutes les piqûres. Il y a plusieurs attitudes. Premièrement, désinfecter immédiatement la zone à l'eau et au savon, puis avec un antiseptique doux. Appliquer du froid, glaçon dans linge propre, ou alors vous mettez dans le chérant, pour limiter la douleur et le gonflement. Surveiller l'évolution pendant les heures qui suivent, douleur persistante, démangeaisons importantes, œdème croissant, réaction allergique généralisée, ce dont on a parlé en amont, et administrer un antihistaminique si besoin. Certaines crèmes ou gels antihistaminiques à usage local peuvent être achetés sans ordonnance en pharmacie. Leur objectif, apaiser démangeaisons, rougeurs ou petits gonflements après des piqûres d'insectes. Donc il y a plusieurs formes disponibles sans ordonnance. On a des crèmes, des gels antihistaminiques locaux, souvent combinés avec un léger anesthésique vendu librement. Tout le monde connaît l'Apésil, l'Onctose, le Rax. Donc comme tout produit, il y a des limites et des précautions. Donc ne sont pas efficaces contre les réactions allergiques graves, donc c'est-à-dire le gonflement du visage, la gorge, les difficultés respiratoires. Si les symptômes persistent plus de 7 jours ou si une infection apparaît, consultez un médecin. Elles peuvent provoquer, bien que rarement, des effets secondaires locaux, irritations ou réactions allergiques cutanées. À éviter chez les femmes enceintes ou jeunes enfants sans avis médical ou sans l'avis du pharmacien. Et on a aussi des alternatives et des traitements complémentaires, antihistaminiques oraux, loratadine, cétirizine, bilastine, qui sont aussi disponibles sans ordonnance, utiles pour les démangeaisons diffuses ou les réactions plus étendues. Une crème corticoïde légère, telle que l'hydrocortisone, est également disponible sans ordonnance pour calmer les démangeaisons locales. Donc, concernant tous ces produits, bien demander aux professionnels de santé, pharmaciens, les conditions d'utilisation.
Edmond, s'il s'avère que dans notre environnement proche, on trouve un nid et qu'on n'a pas très envie de se faire piquer de façon régulière, quelles sont les conduites à tenir en cas de découverte d'un nid ?
Alors, quelques conseils en cas de découverte. Ne jamais tenter de le détruire soi-même, surtout s'il est actif. Éviter de faire du bruit à proximité et de s'en rapprocher. Signaler le nid à la mairie ou à un professionnel spécialisé pour qu'il agisse pour nous débarrasser du nid. Dans le cas des frelons asiatiques, qui est un cas un peu particulier, certaines collectivités ont mis en place des plans d'alerte et de destruction encadrés. On peut retrouver aussi sur le site frelons@asiatique.fr la possibilité de signaler le nid qui peut effectivement servir pour la prévention et pour l'intervention des personnes qui vont détruire les nids. Et dans les Bauges, la destruction elle est prise en charge par les collectivités qui ont adhéré à une convention avec le Grand Chambéry. Et pour le savoir, il faut se rapprocher de sa commune et on aura l'information directement.
Et si, au-delà du nid, qui est un cas vraiment particulier, est-ce qu'il y a des gestes ou attitudes à avoir pour éviter de se faire piquer ?
Alors, quelques précautions à prendre. Éviter les vêtements sombres. Éviter les parfums floraux qui attirent les insectes et qui vont vous prendre pour une fleur. Donc ça peut être dangereux. Protéger les aliments et boissons sucrées à l'extérieur. On pense évidemment en particulier pour les enfants aux boissons sucrées, aux sirops, et qui inévitablement vont attirer les guêpes. Ne pas marcher pieds nus dans l'herbe. Garder les fenêtres fermées ou utiliser des moustiquaires. Important aussi, vérifier l'absence d'insectes dans les vêtements, chaussures et serviettes laissées dehors. En particulier si on va se baigner et qu'on revient et qu'on enfile ses vêtements après s'être séché. C'est important en période estivale de vérifier qu'il n'y a pas d'insectes en fait, dans les vêtements ou dans les serviettes. Et enfin, installer des pièges à distance des zones fréquentées pour éventuellement capturer les insectes nuisibles.
Les plus proches de nos maisons, en fait.
C'est ça.
L'été, tu vois, c'est un peu comme le soleil qu'il y a dans ta voix. Quand elle bourdonne au creux de mon oreille, j'ai là ce petit goût de miel, me met le cœur en joie. Da-di-dam-da-dam-dam. Un endroit bien caché, loin des regards jaloux, perdu dans les prés, grandes herbes jusqu'aux genoux. Nous attendrons tranquille la rosée du matin et quelques vieux vinyles que nous emporterons pour danser sensuel, puis nous disparaîtrons dans l'au-delà du ciel. C'est un peu comme le soleil qu'il y a dans ta voix. Quand elle bourdonne au creux de mon oreille, j'ai là ce petit goût de miel, me met le cœur en joie. Da-di-dam-da-dam. Je te chanterai l'Italie, celle qu'on aime tous les deux, à la manière d'une litanie. J'en appelle à tous les dieux. Nous prendrons notre temps pour trouver notre Apollon. S'il existe vraiment, on s'en fera une chanson. Un truc extraordinaire pour chanter à la maison. Les grands soirs de première.
De piqûres, on a à peu près fait le tour des petites bêtes, des pâquerettes qui piquent. Maintenant, on a le droit aux petites bêtes qui mordent. Et on va parler des fourmis rouges, Maud.
Oui, alors les fourmis rouges, donc notamment les espèces qu'on appelle du genre Solenopsis, ce sont des petits insectes qu'on connaît bien. C'est des petits insectes sociaux hein, qui vivent en colonie. On voit bien leur belle maison en tas comme ça. Donc elles sont souvent situées donc dans le sol, sous des pierres ou sous des souches. Donc en France, elles sont moins fréquentes que dans d'autres régions tropicales, mais certaines espèces qui sont autochtones peuvent occasionner des piqûres quand même assez douloureuses. Enfin, c'est que ce sont plutôt des morsures. Parce que contrairement en fait à l'abeille ou à la guêpe, la fourmi rouge mord avec ses mandibules et puis elle s'agrippe à la peau. Et avec un petit, ce qu'on appelle un aiguillon, elle va injecter son venin qui est situé à l'arrière de son abdomen. Et ce venin, eh ben, il contient principalement ce qu'on appelle de l'acide formique, ainsi que des substances alcaloïdes pardon, qui sont responsables de l'inflammation et de la douleur locale.
Et alors, qu'est-ce que ça fait si, justement, on a eu la chance de rencontrer, de croiser la route de ces fourmis rouges ?
Alors, outre le fait que ça fasse mal, c'est une douleur qui est plutôt comparable à une brûlure, en fait. C'est assez, ça vient très subitement, et puis c'est assez vif, et puis survient après souvent ce qu'on appelle un érythème, donc une rougeur, et puis des démangeaisons qui peuvent être assez intenses. Il peut aussi y avoir des vésicules, voire des petites pustules, hein, on reste dans les choses sympathiques, qui peuvent apparaître après quelques heures. Donc en cas de piqûre multiple, notamment chez les enfants, une réaction plutôt généralisée peut survenir, donc de l'urticaire, malaise, nausée ou difficultés respiratoires, même si c'est rare, tous ces petits signes qu'on a déjà évoqués qui sont simplement le fait que le corps réagit à une agression.
Donc là, on est d'accord, c'est un peu comme les précédentes bestioles. Mmh. Si on se fait piquer, même consigne.
Voilà, même consigne. On lave immédiatement la zone avec de l'eau et du savon. On peut désinfecter avec un antiseptique simple. On applique du froid localement pour principale action pour soulager la douleur et puis limiter l'extension de l'inflammation. Comme l'a expliqué Catherine, on peut aussi utiliser une crème antihistaminique ou une à base de corticoïdes pour réduire principalement les démangeaisons qu'on trouve en pharmacie, et sans ordonnance. Et puis encore une fois, en cas de signes généraux importants, on consulte soit un médecin, soit on appelle les urgences s'il y a une réaction allergique grave.
Est-ce qu'on peut avoir un comportement qui permettrait d'éviter d'être confronté à ces minuscules petites bêtes ?
Bah, ça reste des petites précautions qui sont valables hein, pour tous les insectes. On évite de marcher pieds nus dans l'herbe ou sur les zones sablonneuses où les colonies peuvent être implantées, même si on a grand plaisir à marcher pieds nus l'été dans l'herbe fraîche. Évidemment, on ne dérange pas les fourmilières, même si nos petits-enfants aiment bien, avec un petit bâton, aller les déranger joyeusement. porter des vêtements couvrants lors de travaux de jardinage ou de camping, parce qu'on a bien vite fait, avec un petit coup de bêche, de se retrouver dans un nid de fourmis qui nous grimpe partout dessus. Et puis, bah, encore une fois, voilà, informer les enfants et puis les personnes sensibles sur les risques potentiels.
Dans le monde des fourmis, il n'y a que des fourmis, des autoroutes de fourmis, des ascenseurs de fourmis, des océans de fourmis, des galaxies de fourmis, des échangeurs de fourmis, des myriades de fourmis.
Alors, on n'a pas fini la tournée des petites bestioles qui peuvent nous piquer. Et cette fois-ci, je pense que celui-là, il remporte la palme du détesté.
Oui, je crois.
Alors, Catherine, de qui s'agit-il ?
Eh ben, nous allons parler maintenant de ceux qui nous mangent le sang, quoi, les hématophages. Donc, le moustique commun et le moustique tigre, que tout le monde connaît. Donc, les moustiques font partie des insectes hématophages qui mangent le sang, qui appartiennent à la famille des culicidés, dont la piqûre provoque généralement des démangeaisons, des rougeurs et des petits gonflements. C'est surtout la femelle moustique qui se nourrit du sang pour permettre la maturation de ses œufs. Dans les Bauges, on retrouve principalement deux espèces. Le moustique commun, brun, assez gros, actif surtout au crépuscule et la nuit, il bourdonne, pique rarement en intérieur et hiverne parfois dans les caves et les combles. Le moustique tigre, lui, qui est plus petit, environ 5 mm, qui est rayé de noir et de blanc, silencieux. Il pique surtout en journée, dès le matin et jusqu'à la fin de l'après-midi. Importé d'Asie, il est désormais solidement implanté dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, compris dans de nombreuses communes en bordure des Bauges, Chambéry, Aix, Albertville, et commence à gagner les vallées du massif. Donc en fin de compte, ça couvre les 24 heures. Il y en a la journée, à la nuit. En altitude supérieure à 1000 mètres, 1200 mètres, le climat reste un frein à son développement. Les alpages et stations comme le Sambuis ou le Revard restent pour l'instant préservés car les œufs et larves ne survivent pas aux nuits fraîches.
Alors Edmond, on l'a compris, le gros méchant, c'est quand même le moustique tigre. Et où est-ce qu'on le trouve, lui ?
Alors c'est le gros méchant, et depuis quelques années, il s'est répandu sur tout le territoire français. Et aujourd'hui, il est repéré dans plus de 6500 communes françaises. Évidemment, on n'échappe pas à ce fléau dans les Bauges. Les zones les plus exposées étant les vallées en dessous de 800 mètres, puisque finalement c'est un moustique qui n'aime pas trop l'altitude. Et on le trouve essentiellement dans les villages et les hameaux où l'eau peut stagner. Alors stagner dans des pots de fleurs, dans des récupérateurs, dans des gouttières, dans des mâches. Mais il faut savoir que le moustique tigre peut pondre dans des eaux stagnantes aussi petites qu'un bouchon. Ça veut dire qu'il faut vraiment chasser tous les points d'eau stagnants autour de son domicile.
J'imagine que comme beaucoup d'insectes de nuisibles qu'on n'a pas très, très envie de voir, ça va très vite pour qu'il soit beaucoup.
Alors c'est ça, la reproduction est très très rapide. Une femelle peut pondre jusqu'à 150 œufs en une seule fois et plusieurs centaines au total. Les œufs du moustique tigre sont souvent pondus à sec sur des parois de récipients et ils peuvent survivre plusieurs mois avant d'éclore, après la première pluie ou la petite goutte d'eau qui va venir alimenter l'œuf. Le développement larvaire est accéléré par la chaleur en été, c'est pour ça évidemment qu'on en trouve beaucoup plus en été, et il suffit de 7 à 10 jours pour passer de l'œuf aux moustiques adultes. Résultat, une semaine d'oubli, une soucoupe non vidée, un pot de fleurs avec de l'eau stagnante peut suffire à créer une véritable colonie.
Alors tout à l'heure, je l'ai taxé de gros méchant. Évidemment, c'est pas très sympa, mais ça sort pas de n'importe où parce que pour l'homme, il peut y avoir des conséquences.
Alors tout à fait, en dehors de la piqûre elle-même, qui est, comme le disait Maud, assez désagréable, le moustique tigre est vecteur potentiel de maladies graves, comme la dengue, le chikungunya, dont on a beaucoup entendu parler à La Réunion, mais qui existe malheureusement sur le territoire de la métropole aussi, et la maladie qu'on appelle Zika. Ces maladies ne sont pas autochtones, mais elles peuvent être transmises localement si un voyageur infecté est piqué à son retour. Ces dernières années, on a constaté plusieurs cas sur la région Rhône-Alpes et sur le département de la Savoie. C'est malheureusement quelque chose qui finalement se développe avec le développement du moustique tigre sur nos territoires. La piqûre elle-même, elle est plus douloureuse, plus enflée que celle d'un moustique classique. Elle est souvent localisée sur les mollets, les bras, les chevilles. Et elle est responsable de fortes démangeaisons qui peuvent entraîner une infection si on les gratte de manière trop forte.
Maud, on voit que c'est pas forcément hyper cool de favoriser l'implantation du moustique tigre. Comment on peut lutter contre ça?
Alors oui, effectivement, c'est pas très cool. Et la lutte, en fait, elle est avant tout domestique. Hein, donc il y a trois niveaux d'action. Donc supprimer l'eau stagnante, se protéger individuellement et puis aussi surveiller et signaler. Donc se protéger individuellement, ça va être porter des vêtements longs et clairs. On peut utiliser aussi des répulsifs adaptés, donc attention chez les femmes enceintes et les enfants. Et dans les répulsifs, encore une fois, c'est comme pour la protection solaire, etc. Bien faire attention à ce qu'on achète, que ça reste des produits quand même écologiques, sans perturbateurs endocriniens, et puis aussi bénéfiques pour la nature qui nous entoure. Et puis, ça peut être aussi installer des moustiquaires, utiliser des ventilateurs, puisque le vent va gêner le vol du moustique et puis éviter qu'il pénètre dans les maisons. Ensuite, comme l'a dit Elnon, supprimer toute source d'eau stagnante. Donc, on a dit les soucoupes, les jouets qui peuvent traîner dans le jardin. Fermer aussi bien les cuves de vos jardins quand vous récupérez les eaux de pluie, par exemple. Quelque chose auquel on ne pense pas forcément, mais quand on stocke des vieux pneus qu'on n'a encore pas emmenés à la déchetterie, tout ça, donc bien penser à les percer pour éviter que l'eau pénètre et puis les ranger à l'abri. Et puis, ce qui est quand même aussi important de dire, c'est que le moustique va vivre et se reproduire dans un rayon à peu près de 150 mètres autour de la maison, donc bien être vigilant sur tout ce qui traîne autour. Et puis enfin, c'est surveiller et signaler. Donc toute suspicion de moustique tigre peut être signalée sur des sites officiels. Donc il y a signalement-moustique au singulier.fr ou agir moustique. Et voilà, donc c'est ce qui peut aussi amener à aider aussi un petit peu les scientifiques et puis les diverses interventions des communes sur notre invasion de moustiques.
Le moustique, c'est pas vraiment nos grands copains, mais au-delà de l'aspect pénible et des démangeaisons que ça engendre, est-ce que ça peut provoquer des choses qui aillent plus loin?
Alors principalement, ce qu'a dit Edmond, ce serait quand même des problématiques localisées, en dehors des maladies qui peuvent être transmises, comme la dengue, chikungunya ou le Zika. Et dans le cas des piqûres standards, banales, ça reste toujours la même chose pour tous les insectes qui viennent nous déranger. Ça va être nettoyer la peau à l'eau et au savon, bien désinfecter, appliquer du froid pour limiter le gonflement et la douleur. Utiliser des crèmes apaisantes, comme on l'a dit, antihistaminiques ou à base d'hydrocortisone. Et puis surtout, éviter de gratter parce que ça a tendance à augmenter l'inflammation. Ça peut créer des petites lésions et créer des petites surinfections localisées qui ne sont pas graves, mais qui peuvent être vite embêtantes. Voilà. Après, faut quand même faire attention si la piqûre devient très rouge, gonflée ou douloureuse. Et puis surtout, si des signes apparaissent comme la fièvre, des douleurs articulaires ou une éruption cutanée un petit peu plus élargie, qui peuvent justement faire penser aux diverses maladies qui peuvent être transmises.
On a déjà donné beaucoup d'informations pour essayer de lutter contre leur prolifération et leur installation. Est-ce que dans les Bauges, il y a des choses particulières à mettre en place?
Alors, ça reste toujours un petit peu la même chose, faire la chasse aux eaux stagnantes, et ça dès le mois de mai, hein, parce que ça commence assez tôt. On se protège des piqûres, et puis en altitude, c'est important quand même de surveiller les points d'eau artificiels sur les balcons, les abris de jardin. Les jardins familiaux. Et puis surtout, on a un grand rôle de préservation de notre territoire. Je pense qu'on est tous acteurs volontaires pour maintenir le bel équilibre qu'il y a dans les Bauges. Et c'est informer les visiteurs qui vont être des visiteurs saisonniers dans les gîtes, dans les campings. Voilà, parce qu'un moustique-tigre peut voyager aussi dans un pot de fleurs, une voiture, une remorque. Et puis voilà, inciter le plus de gens à être... être dans ces bonnes pratiques. Voilà, moins d'eau stagnante égale moins de moustiques, égale moins de maladies, et puis un plus bel été pour tout le monde.
Et la dernière petite bête, alors, petite mais costaud, on ne va pas s'attarder aujourd'hui dessus parce qu'elle mérite son émission à elle toute seule, c'est la tique.
Oui, alors surtout, on fera certainement une émission sur la maladie de Lyme, qui reste quand même une maladie qui est difficilement... où sa prise en charge n'est pas simple aujourd'hui, par mes connaissances quand même de tout ce qu'elle peut engendrer.
Alors, on a fait petite bête, voire même petite bête mignonne avec des petites chansons avec des fleurs. Là, pour moi, c'est petite bête vachement moins mignonne. On va parler de la vipère, Catherine.
Ah bah oui, parce qu'on a aussi les petites bêtes qui rampent. Donc, nous allons vous parler de la vipère aspic. Donc, c'est un serpent sauvage, espèce protégée en France. Elle fait partie intégrante de la biodiversité du massif des Bauges. Contrairement aux idées reçues, elle n'est ni agressive ni dangereuse sans raison. Les vipères sont les seuls serpents venimeux de France. La vipère la plus fréquente de la région est la vipère aspie, reconnaissable par un corps trapu, souvent entre 50 et 80 cm, une tête large, triangulaire, bien distincte du cou, des yeux à pupille verticale, comme un chat, une queue courte et un mouvement plutôt lent, une robe variable, gris, brun, beige, parfois rougeâtre, souvent avec un zigzag sombre sur le dos. Elle vit dans les pentes sèches ensoleillées, les murets de pierre, les aires de forêt, hautes herbes, prairies, et parfois près des ruisseaux, surtout si la zone est chaude et calme. Elle chasse principalement lézards, petits rongeurs, grenouilles. Elle évite les humains, mais peut mordre si elle est surprise ou écrasée. La vipère ne cherche pas à attaquer. Elle mord uniquement si elle se sent menacée, souvent lorsqu'on marche dessus sans l'avoir vue.
Alors si la vipère n'est pas encore accrochée à notre jambe ou à notre bras, comment on fait pour reconnaître une morsure de vipère, Maud ?
Alors oui, comment on fait pour la reconnaître ? Évidemment, ça va être en premier lieu une sensation douloureuse. Et puis on la reconnaît assez facilement parce qu'elle laisse deux petits points rouges qui vont être espacés à peu près de 5 mm. Et donc cette morsure, elle peut provoquer un gonflement rapide, surtout au niveau des mains et des jambes. Toujours la rougeur, la chaleur et l'engourdissement qui sont les marqueurs de l'inflammation. Et puis aussi parfois des nausées, des vertiges. Des sueurs, l'accélération du cœur, alors ça c'est aussi parce qu'on a peur, mais c'est aussi parce qu'on a mal et c'est aussi l'injection du venin. Et puis une fièvre peut apparaître aussi. Donc les enfants et les personnes âgées ou fragiles sont quand même les plus à risque de faire une réaction forte.
Si ça arrive, qu'est-ce qu'on fait ?
Alors, la première chose qui n'est pas la plus facile, c'est garder son calme. Parce qu'il y a quand même toute une histoire avec les serpents, etc. C'est un peu comme les loups, hein. On a très très peur. Mais avant tout, c'est essayer d'instaurer le calme autour de soi. On appelle les secours. Donc, principalement le 15 ou le 18. Allonger la personne victime On la laisse bien au repos et au calme. Ça, c'est très, très, très important pour éviter que la personne accélère son rythme cardiaque. On immobilise le membre qui a été touché, un peu comme à la manière d'une entorse. Quelque chose aussi qui est très important, ça va être de retirer toutes les bagues, les montres, les bracelets, les chaussures, les chaussettes, enfin tout ce qui va être autour de la zone de morsure, parce qu'il risque, et c'est qui est quasiment systématique, un gonflement du membre qui a été atteint. Et puis voilà, comme je l'ai dit, on ne bouge pas parce que l'effort augmente la diffusion du venin avec l'accélération du rythme cardiaque.
On a tous en tête des films d'aventure avec Indiana Jones qui arrive et qui prend langoureusement la cheville de la personne et aspire le venin et le recrache loin et la sauve. Ouais. Est-ce qu'on fait tous ça?
Alors si celui-là tu le croises, tu me le dis, on lui dira que c'est pas ça du tout qu'il faut faire. Le chapeau, c'est pour le soleil, c'est pas mal, mais pour le reste, c'est pas ça.
Ok, alors qu'est-ce qu'il faut pas faire?
Alors surtout, ce qu'il faut pas faire, c'est pas inciser la plaie. On ne touche pas une plaie avec un venin parce qu'on peut augmenter le risque infectieux. On n'aspire surtout pas le venin. Alors, je fais un petit focus sur l'aspi-venin où il n'y a aucune étude scientifique qui prouve l'utilité de l'aspi-venin. Vous pouvez aller voir sur les différents sites de la Haute Autorité de Santé ou de la Caisse primaire d'assurance qui explique tout ça. On ne pose pas de garrot, parce qu'il y a aussi cette croyance aussi où on met un garrot, ça évite... Non, pas du tout, ça évite surtout l'oxygénation des tissus et ce n'est pas du tout une bonne idée. Et on ne refroidit pas la zone et on ne la chauffe pas non plus. En fait, on ne touche pas. On laisse la personne au calme, on appelle les secours et on maintient le plus possible les gens à distance. Enfin, ça paraît évident, mais on ne donne pas d'alcool. Hein, le petit coup de gnôle pour réchauffer en se disant « Allez, les secours vont arriver, on évite ». Pas d'aspirine au cas où pour la douleur, même si on n'a que ça sur soi, on ne le fait surtout pas. Et puis voilà, même si tous ces gestes ils sont vraiment inefficaces, mais surtout ils peuvent aggraver de façon assez importante les choses.
Alors si je comprends bien la scène, mon copain se fait piquer. Mmh. Je lui dis garde ton calme, ouais. Je m'assois à côté de lui et j'attends les secours.
Tu les appelles?
Ouais, je les appelle.
Ah bon?
Ouais, c'est pas mal.
C'est ça.
Parce qu'ils viennent pas tout seuls.
C'est ça.
Et ensuite, une fois qu'il y a eu une prise en charge, que se passe-t-il?
Alors oui, on aimerait... Enfin, c'est toujours bien de savoir ce qui se passe parce que même si c'est pas vital et grave, il y a quand même un suivi qui est important, une surveillance. Donc une fois à l'hôpital, le patient va être surveillé, ce qu'on appelle cliniquement, donc au niveau de ses constantes, etc. Un antivenin peut lui être administré en fonction de la gravité de sa réaction. Évidemment des antalgiques, des antidouleurs avec une surveillance. Ça peut suffire ça pour les formes plutôt légères. Alors, petite information, quand même, environ 200 hospitalisations par an en France sont induites par une piqûre de vipère. Et les décès sont extrêmement rares, il y a moins de 1 cas par an. Et c'est souvent en cas de retard de prise en charge.
Alors, comme on a très souvent peur de ce qu'on ne connaît pas, là, on a appris à connaître un peu déjà avec Catherine à quoi ressemblait cette vipère aspic. Est-ce que aussi on peut se dire qu'on ne va pas la déranger, Edmond? Comment on peut faire?
Évidemment qu'on a des moyens de prévention, mais qui sont des moyens de bon sens. Quand on part en randonnée, on porte des chaussures montantes, si possible un pantalon long, surtout dans les herbes sèches ou les pierrées. On utilise un bâton de marche qui va signaler notre présence par le bruit. On reste sur les sentiers, on évite de passer à travers les hautes herbes et les tas de pierres. On ne glisse pas ses mains dans un muret, un trou ou au milieu des pierres. On ne manipule pas les serpents. C'est quand même un jeu un peu bizarre, mais on ne sait jamais.
J'en connais plein qui le font. Hein.
Même s'ils sont morts, on ne sait jamais. Et puis, on avertit les enfants avant de partir en balade et on surveille les chiens. En cas de rencontre, la vipère va fuir au niveau du bruit. Si elle siffle ou se montre, il faut reculer lentement, sans geste brusque, et finalement s'éloigner de l'animal. Dans tous les cas de figure, quelle que soit la piqûre, il faut consulter un médecin.
Alors là, on a fait le tour. Des petites bêtes qui piquent et qui mordent pour l'été. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est que s'il y a, après une piqûre ou une morsure, il apparaît des symptômes qui sont anormaux, on va consulter.
Oui, c'est ça. En fait, principalement, on observe la réaction de la victime, si on peut dire ça comme ça. Et puis, voilà, principalement, les effets restent quand même locaux. Et puis, il n'y a pas de signe de gravité. Mais le risque principal reste quand même le risque allergique.
Merci pour tous ces conseils, trucs, astuces. Et puis, on va se retrouver le mois prochain pour des nouveaux conseils avec la CPTS. Merci Maud, Catherine,
Anne. Merci, au revoir.
Retrouvez tous les renseignements sur la CPTS des Bouges, ses actions, ses professionnels et ses messages de prévention sur www.radioalto.info à la rubrique Émission des partenaires.